Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Différence. Radio & Co. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Marie-Régine Barraud, qui est chargée d'accessibilité chez Tisséo. Bonjour à vous.
Bonjour à vous tous.
Merci d'être venu nous parler un peu de Tisséo, que les Toulousains connaissent bien, mais que nous allons mieux découvrir grâce à vous aujourd'hui. Christian au micro. Pour vous accompagner en ce début d'interview, il y a Lucas.
Bonjour,
bonjour. Lucas. Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc.
Et Léa.
Bonjour.
Bonjour Léa.
Alors je crois que c'est Lucas qui va poser la première question aujourd'hui. On change un peu d'habitude.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Alors, je m'appelle Marie-Régine Barraud. Donc je travaille chez Tisséo Collectivité et je suis chargée de mission accessibilité.
Bon, depuis merci. Quand Tisséo existe?
Alors, Tisséo, c'est un nom commercial pour plusieurs entités. Donc moi, je travaille chez Tisséo Collectivité, qui est le syndicat mixte des transports en commun. C'est la réunion de plusieurs communautés d'agglomération, Toulouse Métropole, le Sicoval, le Murtem et le SMTC. Donc Tisséo Collectivité existe depuis 1974. Mais le mot Tisséo a été créé en 2002.
Pourquoi ça s'appelle Tisséo?
Alors, Tisséo, dans Tisséo, il y a Tisséo. Enfin, je suppose, j'étais pas là quand ça, le nom a été inventé, mais je suppose que c'est pour vouloir dire tisser, comme mailler, comme une toile d'araignée. En plus, si on imagine la carte des bus qui vont partout, un peu comme dans une toile d'araignée.
D'accord.
Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Tisséo. Et il y a une deuxième entité. Et Tisséo Voyageurs, c'est l'exploitation du service. Le SMTC dont je parlais, Tisséo Collectivité, c'est là où on décide la politique des transports. Et le Tisséo Voyageurs, c'est là où on conduit les bus, le métro, les agences, toutes les personnes qui font en sorte que tout fonctionne bien. Et Tisséo, je l'ai dit, c'est depuis 2002. Alors, mon travail, ça consiste à faire en sorte que les projets, le réseau soit le plus accessible possible, d'aller voir mes collègues, pour leur donner des conseils et vérifier que ce qui est fait de façon accessible. Et pour cela, mon travail consiste beaucoup à organiser la concertation avec les associations. Dans le cadre de ce qu'on appelle la commission accessibilité du réseau urbain Tisséo, la CARUT. Donc on fait à peu près une réunion par mois, dans lequel diverses associations viennent et on va traiter d'un sujet, soit un sujet d'un projet futur comme la ligne C de métro, soit un sujet d'actualité qu'il faut améliorer, par exemple améliorer la signalétique ou améliorer la communication de Tisséo. On va faire des réunions donc avec les associations qui sont représentées souvent. La plupart des personnes qui viennent sont elles-mêmes en situation de handicap, donc vraiment vont nous faire part de leurs besoins. Et c'est en s'appuyant sur le besoin des personnes qu'on peut transmettre à nos collègues dans quel sens il faut travailler les projets.
Depuis quand occupez-vous votre poste?
Alors, je travaille sur ce poste depuis septembre 2020. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans.
Qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ce métier?
Alors, ce qui me plaît, alors est-ce que ça m'a donné envie? Mais je le savais un peu avant, mais surtout ce qui me plaît maintenant que je fais ce métier, c'est vraiment le côté humain. Il y a beaucoup de rencontres à travers la concertation. à travers aussi de connaître les autres collègues, aller voir les collègues qui s'occupent de la ligne C, des ascenseurs, des escalators, et de discuter avec eux. Donc beaucoup ce qu'on appelle la transversalité. Et c'est vraiment ce côté humain. Et puis le côté d'être utile, de faire un métier utile. C'est important pour moi de faire un métier dans lequel on trouve du sens.
Quelle est la politique de l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap chez Tisséo?
En ce qui concerne, moi j'ai compris votre question, en ce qui concerne les ressources humaines pour l'emploi. Donc,
oui, tout à fait. Oui.
Tisséo favorise l'intégration. Alors, surtout Tisséo Voyageurs, Tisséo Voyageurs, ça représente 2800 personnes environ. Donc, il favorise l'intégration et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, des personnes qui, du fait de leur travail ou de leur vie, deviennent en situation de handicap. Et en même temps, ils essaient d'intégrer le plus possible des personnes en situation de handicap aussi dans l'embauche. Le pourcentage de travailleurs en situation de handicap chez Tisséo Voyageurs est de 8%.
Ah, quand même, oui. Au-delà des...
Voilà. Et alors, chez Tisséo Collectivité, c'est la première année où, en novembre 2023, on a fait le duo D. Donc, on a reçu deux personnes. Et en fait, les personnes qui répondaient à nos annonces, en fait, elles espéraient plutôt travailler chez Tisséo, faire leur stage chez Tisséo Voyageurs, voir des choses concrètes. Puisque chez Tisséo Collectivité, c'est plus des emplois de bureau. C'est des ingénieurs... qui travaillent donc voilà sur les projets, et donc c'est un peu statique et peut-être ça faisait peur et donc j'espère que ça va se faire. On a conseillé à Tisséo Voyageurs de faire le duo D l'année prochaine pour pouvoir accueillir des personnes qui postuleraient.
Ah, ça c'est génial, voilà, pour permettre aux personnes de découvrir. Oui. Et peut-être ensuite de...
Tout à fait, et puis c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les personnes qui viennent, elles découvrent un métier, elles découvrent surtout, enfin moi j'ai accueilli un jeune, et c'est surtout s'apercevoir qu'on peut travailler. On n'est pas, voilà, il faut dépasser un peu aussi
les barrières.
Voilà.
Et en plus, c'est une sensibilisation pour les salariés aussi, ça peut être.
Tout à fait.
Peut-être un chauffeur de bus, il travaille en binôme une journée avec une personne handicapée, il va peut-être se rendre compte de certaines choses qu'il ne se rend pas compte forcément.
Tout à fait. Oui, oui.
Bon, j'avais une question à vous poser également, puisque vous êtes chargé d'accessibilité. Qu'est-ce que représente le mot accessibilité pour Tisséo?
Alors, pour Tisséo, c'est vraiment permettre à chacun de se déplacer, quelle que soit sa situation. C'est le côté universel. C'est vraiment quand on fait un projet, c'est permettre qu'il serve à tout le monde.
Donc l'accessibilité vraiment au sens large. En fait.
Au sens large, vraiment d'universalité. L'idée, c'est pas de faire quelque chose pour certains et puis les mettre de côté parce qu'ils vont avoir, c'était un peu une vision rétrograde. Là, on fait des ascenseurs, ça sert à tout le monde. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de meilleurs déplacements, parce que c'est quand même très important, c'est se déplacer, sortir de chez soi, c'est le premier pas pour la citoyenneté, participer à la vie citoyenne, à la vie sociale, c'est le déplacement aussi. Donc, et puis on a un président, M. Latt, le président de Tisséo, qui est vraiment particulièrement attentif à cette question de l'accessibilité. Et il nous pousse même à aller au-delà de la réglementation, c'est d'avoir quelque chose de le plus confortable possible, avoir ce qu'on appelle un confort d'usage, quand on peut, hein, parce que des fois, on est des fois limité par la technologie, par les espaces, etc.
Justement, vous avez un peu répondu à ma question, mais on voit que Tisséo donc s'implique beaucoup dans l'accessibilité. La preuve, voilà, c'est l'engagement de M. Latt et votre présence aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une obligation pour Tisséo ou est-ce que c'est une volonté politique?
Alors, c'est à la fois une obligation, puisque là, il y a différentes lois. Donc la dernière, la loi de 2005, avec certains arrêtés après qui précisent les choses, qui nous obligent à mettre en accessibilité les arrêts de bus, qui oblige par rapport aux personnes qui ont besoin du son parce qu'ils n'y voient pas, avoir les annonces sonores. Enfin, il y a beaucoup de choses qui découlent de la réglementation, mais comme je le disais, on a la volonté d'aller au-delà, de faire mieux que la réglementation.
Mais nous allons maintenant changer de plateau et je vais laisser Thomas prendre la barre pour la suite de l'interview.
Alors bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Thomas au micro, je suis accompagné cette fois de Yanis. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Olivier.
Bonjour Thomas.
Et Wassim.
Bonjour.
Alors la question qui me vient pour le moment, c'est quels sont les aménagements les plus remarquables réalisés par Tisséo pour faciliter les déplacements des usagers en situation de handicap sur son réseau de transport, métro, bus, tramway et téléo?
Alors, Tisséo, bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, respecte la réglementation et met en accessibilité les stations de métro et le réseau de bus. Mais au-delà, il y a plusieurs projets un peu remarquables. D'abord, on a été les premiers à faire un valideur ABC pour entrer dans le métro. Je ne sais pas si vous prenez souvent le métro, si vous voyez. Donc il y a eu le valideur était un peu trop haut pour les personnes qui sont en fauteuil, surtout si elles ont des problèmes pour lever le bras. Donc il y a les valideurs ABC qui ont été créés. Donc c'était une première en France. Et puis après il y a le dispositif Mon Métro d'image en image, qui est un dispositif pour permettre aux personnes qui ne savent pas lire, qui ont du mal à se repérer, à repérer les stations de métro, c'est-à-dire à une station de métro et associer une image. Et ça aussi, ça a été créé en 2017.
Ce sont les pictogrammes, les grandes figures que l'on voit sur les murs de chaque quai.
Voilà, c'est ça. Par exemple, à la station Jean Jaurès, vous avez une image qui représente
Jean Jaurès.
Mmh. À Carmes, c'est un panier puisqu'il y a un marché à Carmes.
La vache, c'est une vache.
Voilà.
Et à Trois Cocus, il y a quoi?
À Trois Cocus, je ne me souviens plus. Il n'y a pas trois coucous. Hein.
Non, c'est trois coucous. C'est l'occitan, en fait. C'est trois coucous et donc c'est trois oiseaux.
Trois oiseaux, d'accord.
Voilà, donc ça, c'est aussi un beau dispositif innovant, hein, puisqu'on a été les premiers en France. Depuis, on a été copiés, notamment à Clermont-Ferrand, qui vient d'inaugurer l'année dernière des images aussi sur leur tramway. Là, c'est des animaux sur leur nom associé à chaque station de tramway. Et puis, la dernière réalisation d'envergure, c'est Téléo. Téléo a été vraiment conçu pour être accessible. Et c'est dès la conception, avec des concertations avec les associations, Téléo était conçu pour être totalement accessible.
Quel tarif proposez-vous pour personnes handicapées?
Alors, pour les personnes en situation de handicap qui sont reconnues par la MDPH et qui ont une carte avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, c'est la gratuité. Et pour les personnes qui ont un taux de handicap entre 50 et 79%, c'est une réduction sur le tarif en fonction du revenu. Mais c'est une réduction qui peut aller entre 80% de réduction et 50% de réduction. Et toute personne qui a une carte CMI, une carte mobilité inclusion, a droit à une carte avec des tarifs réduits pour son accompagnant. Donc c'est une carte qu'on demande en plus et qu'on donne à l'accompagnant quand il nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, il ne peut pas utiliser la carte, enfin la personne. Et les personnes qui ont sur la carte CMI mention besoin d'accompagnement, leur accompagnant se déplace gratuitement avec une carte aussi.
Et ça peut être ponctuel pour un achat d'un seul ticket par exemple?
Alors, il faut avoir une carte pastel, c'est-à-dire qu'il faut aller en agence, demander une carte pastel.
Donc pour l'accompagnant?
Pour l'accompagnant aussi, c'est une carte pastel, c'est-à-dire la personne en situation de handicap, elle a sa propre carte pastel avec ses droits à réduction ou gratuité. Et elle va demander une deuxième carte pour son accompagnant, sur lequel il y a aussi des réductions ou la gratuité, suivant le cas. Et c'est ces deux cartes qui appartiennent à la personne en situation de handicap. Et quand elle se déplace avec quelqu'un, elle pourra donner la carte à l'accompagnant.
Alors, je crois que connaître la réponse, parce que je l'emprunte de temps en temps. La navette gratuite qui circule dans le centre-ville de Toulouse est-elle accessible pour les handicapés? Moi, je n'ai pas remarqué qu'il y avait de rampe pour la navette gratuite.
Alors, normalement, il doit y avoir une rampe. Mais c'est surtout que elle va être cette navette, donc elle tourne en boucle et elle a la particularité d'avoir certains arrêts, mais entre deux arrêts, elle peut être arrêtée par l'usager, va tendre la main et pouvoir arrêter la navette n'importe où. Donc, quand la navette s'arrête sur un arrêt bien déterminé, c'est un quai. Donc là, ça sera accessible, elle pourra sortir la palette. Mais si elle s'arrête en pleine rue...
La palette, c'est la rampe.
Oui, la rampe, excusez-moi. Et si entre deux, elle va être en pleine chaussée, donc elle ne pourra pas forcément sortir la rampe.
D'accord.
Donc elle est accessible, le véhicule normalement est accessible avec une rampe, mais c'est l'endroit où on prend la navette qui n'est pas forcément accessible.
Ouais, c'est une navette qui passe tous les 20 minutes à peu près.
À peu près, oui. Alors elle passe à Saint-Cyprien et elle... Alors, je ne la connais pas par cœur, elle va aller jusqu'à Inter-Boulevard, en fait.
Elle fait les boulevards, ouais. Elle passe par Jeanne d'Arc, Capitole, Armand du Portal, presque les allées de Barcelone.
Voilà,
puis elle fait la boucle et elle revient vers le Pont Neuf.
Voilà, et en ce moment, elle est pas mal déviée à certains endroits à cause des
travaux. Souvent, il y a des déviations. Ouais. Ma mère l'emprunte beaucoup parce qu'elle est très âgée, ma mère.
Pourquoi y a-t-il qu'un seul ascenseur de la station Jean Jaurès alors qu'il y a beaucoup de passages? Pouviez-vous mettre à jour de manière plus régulière l'information sur les pannes des ascenseurs?
Alors, il y a deux questions. Alors, c'est pas tout à fait vrai. La ligne sur les quais de la ligne A, par exemple, il y a deux ascenseurs. Il y a un ascenseur à un bout du quai et un autre ascenseur à l'autre bout. Donc il y a deux ascenseurs pour remonter du quai à Jaurès de la ligne A. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vu parce qu'ils sont à des extrémités assez loin l'une de l'autre. Et après, la ligne A a été construite il y a 30 ans. La ligne B, alors...
2007.
Donc ça fait quoi
ça fait
17 ans.
17 ans. Ouais.
Voilà. La ligne A, on a rajouté des ascenseurs quand on a agrandi les quais à Jaurès. Et puis la ligne B, pour l'instant, c'est compliqué de toucher à un bâti, en fait, qui est sous terre. Donc, effectivement, parfois, ça peut être encombré, je suppose. Surtout qu'il n'y a pas que ceux qui ont besoin de l'ascenseur qui prennent l'ascenseur. On voit des personnes, bon, on ne peut pas toujours... connaître l'état de santé de la personne qui peut paraître valide et puis qui a peut-être des problèmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent vers les ascenseurs et qui ne laissent pas forcément la place aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et alors, après, la deuxième question, c'est la mise à jour. Alors, il faut essayer de réfléchir à regarder avant de partir si l'ascenseur est disponible.
J'avais une petite question. La ligne A est devenue XXL en doublant ses rames.
Oui.
Est-ce que dans les années à venir, vous envisagez la même chose pour la ligne B?
Alors moi, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Je sais que ça a été étudié.
Oui. Est-ce que les quais sont déjà conçus pour ça?
Voilà. Sur la ligne B, les quais sont déjà conçus pour ça. Mais il y aura quand même d'autres travaux, notamment à Jaurès, pour les flux. Si on agrandit, il y aura peut-être d'autres travaux encore à prévoir. Donc pour l'instant, l'horizon, c'est la ligne C. Moi, je ne sais pas du tout ce qui sera fait pour la ligne B. Et puis peut-être il faut laisser voir ce que devient la ligne C. Peut-être la ligne C va absorber aussi. Et peut-être les élus sauraient vous répondre à cette question, parce que c'est eux qui sont décisionnaires.
Vous améliorez la transmission d'informations dans les bus et dans le métro, parce que par exemple, ça arrive souvent que les annonces vocales du métro ne fonctionnent pas, et j'ai déjà vu une personne atteinte de cécité qui était en difficulté à cause de ça.
Alors, les annonces sonores dans le métro, effectivement, c'est indispensable. Que ce soit pour les personnes en situation de cécité, mais aussi, je pense, tout le monde. Moi, je m'aperçois que quand ils n'y sont pas, je suis un peu perdue aussi. On est obligé d'être plus attentif. On s'est habitué à écouter et être moins attentif. Alors, dès qu'on sait, pareil, en fait, l'annonce sonore d'une rame est liée à la rame, en fait. On m'a expliqué ça. Donc, ce n'est pas le système global. C'est chaque rame a son système de sonorisation. Donc, quand vous découvrez qu'une rame n'a pas la sonorisation, vous pouvez appuyer sur l'appel d'urgence. Dans chaque rame, vous avez un appel d'urgence. Et au-dessus de l'appel d'urgence, vous avez le numéro de la rame. Ça peut être P15, par exemple, H18. Et donc, vous appelez, alors soit du quai, si vous ne voulez pas le faire dans la rame, soit du quai, et vous dites, voilà, la rame H28 n'a plus la sonorisation. Du coup, quand elle arrive en terminus, soit à Bordeaux Rouge pour la ligne B, soit à Bassocambo, les techniciens vont la récupérer, vont injecter une autre rame et vont réparer la sonorisation de la rame. Voilà. Mais on a vraiment besoin que les usagers nous disent que quelque chose est défaillant pour qu'on puisse agir dessus.
Et c'est le bouton qui correspond à l'appel de secours, non ?
Oui. D'accord. C'est-à-dire, donc, vous sur ce pan de mur dans la rame, vous avez tout en haut la poignée qu'il ne faut jamais actionner, parce que quand on l'actionne, ça stoppe tout, et puis après on a pour une demi-heure, voire plus, de panne de métro. Ce qu'il faut faire quand il y a un souci, c'est appuyer sur l'appel d'urgence. Ça vous permet aussi de... On n'ose pas, parce que moi, si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas osé appuyer pour dire qu'il manque la sonorisation. Mais en fait, ça permet d'avoir quelqu'un au poste de commande qui va transmettre l'information aux techniciens qui vont réparer, en fait.
Bah, c'est vrai qu'on n'ose pas appuyer parce qu'on n'a pas envie d'alerter s'il n'y a pas de danger réel. Donc, c'est vrai que ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'appuyer sur le bouton d'urgence pour une défaillance, en fait.
Oui, oui.
On appuie seulement s'il y a un incendie ou s'il y a un événement grave, une bagarre.
Oui. Mais en fait, ça permet de donner tout de suite l'information parce que pour pouvoir réparer un dysfonctionnement, il faut vraiment que les techniciens sachent au mieux qu'est-ce qui s'est passé avec les circonstances, le numéro de la rame, dans quel qu'est-ce qui s'est passé autour. Et donc, quand on le fait tout de suite au moment où ça se passe dans la rame, finalement, ils ont plus d'informations pour réparer le dysfonctionnement.
Pourquoi il n'y a pas de picto au niveau des trams ?
Oui, alors, pourquoi il n'y a pas de picto au niveau des tramways ? En fait, le picto, il a été créé pour se repérer. Dans un métro, on est en sous-sol. Toutes les stations se ressemblent. Donc, on a associé un pictogramme, une image à un nom de station pour se repérer. Et on considère que dans le tramway, on est en extérieur et qu'on peut avoir des repères visuels avec l'environnement. Et donc, on n'a pas souhaité le développer dans le tramway. C'est pour ça que ça s'appelle Mon Métro d'image en image. Et puis, également, c'est que plus on fait d'images, plus on aura de mal à avoir des images qui ne se ressemblent pas. Parce que pour créer ces images, on a respecté un certain nombre de contraintes. Et une des contraintes, c'était d'avoir qu'une personne qui y voit, mais qui y voit mal, puisse, avec les contours, distinguer une image d'une autre image. Ou, pour se souvenir de l'image, il faut la nommer, parce qu'une image comme ça, on va peut-être pas... Enfin, ça dépend des personnes, mais on va sûrement plutôt se souvenir du nom, qui sera un nom simple. Plus on fait d'images, plus on aura du mal à avoir des images distinctes et dont on peut se souvenir.
Le métro toulousain est généralement jugé comme bien plus accessible que celui de Paris, par exemple. C'est le résultat notamment d'un long travail de concertation avec les associations. Envisagez-vous de faire encore mieux pour la troisième ligne de métro en construction ?
Eh bien oui, c'est la volonté politique, la volonté de nos élus que la troisième ligne de métro soit 100% accessible. Alors, le 100%, on va essayer de le faire. Hein. Après, il y aura sûrement des petites choses qui n'iront pas, mais on s'appuie sur l'expérience déjà menée. Vous m'avez parlé des ascenseurs. Par exemple, tous les ascenseurs seront doublés. C'est-à-dire, pour descendre, dès qu'il y a un ascenseur, pour descendre de l'espace public, de la rue, jusque dans le métro, dans la station de métro, il y aura deux ascenseurs côte à côte. Pour descendre jusqu'au quai, il y aura de nouveau deux ascenseurs côte à côte. Les ascenseurs seront plus larges, plus profonds, et au maximum, quand c'est possible, traversant, pour que quelqu'un en fauteuil n'ait pas besoin de se retourner, mais voilà, il rentre d'un côté, il sort en face. Ça, c'est une des demandes des associations. Et on essaie de voir ce qui n'a pas bien fonctionné et de faire mieux. La rame, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter quand elle était exposée derrière le Capitole. La rame de métro sera beaucoup plus spacieuse que celle actuelle, comme celle qu'on voit à Paris ou à Lyon. Elle sera beaucoup plus spacieuse.
Quels sont les autres projets de Tisséo pour améliorer l'accessibilité de son réseau existant? La mise en place d'une application sur smartphone pour guider les malvoyants dans les couloirs du métro qui a été expérimenté il y a quelques années de la station Campan-Caffarelli et qu'elle est toujours d'actualité.
Alors, deux choses. Oui, on continue à mener des actions pour rendre le réseau plus accessible. On continue. Des fois, c'est des petites choses. Hein. C'est pas des grands projets dont on parle, mais on essaye d'améliorer petit à petit. Par exemple, la station Jean Jaurès à l'agence de Jean Jaurès, il y a des agents qui sont formés à la langue des signes. Et donc, une idée que nous a transmise une association, on a rajouté, quand l'agent connaît la langue des signes, il rajoute un petit panonceau pour le signaler, pour que la personne qui a besoin de parler en langue des signes, elle s'oriente vers le bon agent. On a aussi mis une bande de contraste sur le comptoir de la banque de l'agence, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, mais là c'est nécessaire. Donc on essaye de faire des petites choses. Après, des choses plus importantes comme une appli, effectivement, en 2019, les associations de la CARUT ont testé une appli d'Okinéa et la démonstration n'a pas été très concluante. Alors, on n'a pas donné suite à cette... Est-ce que vous avez déjà testé cette application ailleurs qu'à Toulouse? C'est quelque chose qui vous paraît intéressant?
Oui, dans l'idée, ça me paraît intéressant. Moi, je n'ai pas testé ailleurs. J'avais testé juste à Toulouse. Moi, un autre concurrent qui avait été testé aussi, pareil, ça avait été moyennement concluant. Mais après, je pense que c'est amélioré, mais l'idée me paraissait intéressante parce que c'est vrai que les couloirs du métro, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément logique d'une station à l'autre, donc ça... Ça pourrait bien aider les gens, je pense qu'il y a une solution fonctionnelle, effectivement, qui un jour aboutisse à quelque chose pour mieux s'orienter.
Alors, ce qu'on a actuellement, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est l'audio description des stations. Chaque station de métro et de tramway est décrite. Donc, on avait fait appel à un monsieur non-voyant qui nous a aidés à décrire la station. Ça fait qu'on vous dit, quand vous sortez de la rame, vous êtes à la station, par exemple, l'Université Paul Sabatier, vous sortez de la rame, vous avez l'ascenseur sur votre droite, vous avez, je dis n'importe quoi, c'est pas le... Voilà, vous avez l'escalier lié à tel endroit et qui vous décrit le trajet jusqu'à sortir, jusqu'à aller aux arrêts de bus, etc. Alors, ça nécessite d'enregistrer avant... de se les procurer avant et de les avoir après au moment où on fait le trajet.
Oui, ça c'est super intéressant. Effectivement, j'ai un peu écouté les audiodescriptions, c'est très bien fait, c'est un gros travail. Par contre, effectivement, ça demande une très grosse représentation mentale et de mémorisation. Et on n'a pas tous la capacité, en fait, sans avoir d'indication en temps réel. Parce que c'est vrai que les applications, c'était plus du genre GPS, quoi. Vous tournez à droite, voilà. C'est vrai que c'est encore mieux, quoi.
Alors, pour l'instant, on n'a pas donné suite. Bon, peut-être plus tard, quand les applications auront évolué, on donnera suite. Mais en tout cas, pour l'instant, non.
Et nous reprenons l'interview donc avec Marie-Régine Barraud, chargée de mission accessibilité chez Tisséo Collectif. Je suis donc Jennings et je suis également accompagné donc sur ma droite par Arnaud. Salut Arnaud.
Salut.
À ma gauche maintenant, je vais présenter Thierry. Salut Thierry.
Salut tout le plateau, merci, à vous.
Et donc Andri également, salut Andri.
Salut.
Donc... notre prochaine question que l'on voulait vous poser, à qui s'adresse donc le service Tisséo Mobibus et comment fonctionne-t-il?
Alors, le service Tisséo Mobibus s'adresse aux personnes en situation de handicap moteur ou visuel qui ne peuvent pas prendre le transport en commun. Et les personnes qui accèdent directement au service sont les personnes qui ont... qui sont soit en fauteuil roulant, soit en situation de cécité. Pour les autres personnes, il y a une commission d'accès.
J'aimerais savoir, l'organisation de la plateforme de réservation Mobibus n'est pas toujours efficace. Comment pourriez-vous l'améliorer ?
Alors, j'ai oublié de répondre à la question précédente, qui était comment ça fonctionne. Donc,
oui.
Peut-être beaucoup de vos auditeurs connaissent, mais donc c'est un service de transport collectif à la demande. Donc les personnes, une fois inscrites, une fois qu'elles ont l'accès et qu'elles ont le droit de commander Mobibus, elles vont réserver via une plateforme de réservation. Et suivant la disponibilité du service, on va leur répondre sur « on vient vous chercher à telle heure et vous ramener ». Donc je suppose que vous considérez que ça ne fonctionne pas parce que tout le monde n'a pas réponse à sa demande. En fait, on a de plus en plus de personnes qui demandent. Alors, on a passé 2 ans, 2020-2021, début 2022, où avec la crise de Covid, plus personne ne sortait de chez soi, donc c'était très confortable. On demandait Mobibus, on l'avait tout de suite. Et maintenant, on a de plus en plus de demandes. On a, entre 2022 et 2023, on a 14% de plus d'utilisateurs. Et 6% de demandes en plus, 3% de demandes en plus, et l'exploitant nous dit qu'il a réussi à faire 6% de trajets en plus. Donc en fait, c'est l'équation, comment on arrive à répondre à tous, enfin, on n'arrive pas à répondre à tous, puisqu'on a beaucoup de refus, mais à répondre au plus grand nombre en gardant un service qui est quand même qui reste de qualité. C'est la difficulté qu'on rencontre. Alors sur le fait que la plateforme fonctionne ou pas, je suppose que ça vient de là. Ce qu'on va faire, on va avoir un nouveau contrat. En ce moment, on est en procédure d'appel d'offres, puisque Mobibus n'est pas traité en interne. On a ce qu'on appelle une délégation de service public à un opérateur qui est actuellement la société TPMR, qui est filiale de Transdev, qui est un grand opérateur de transport qu'on retrouve partout en France et à l'international aussi. Et donc en ce moment, il y a une procédure d'appel d'offres pour recruter le prochain exploitant de Mobibus. Donc, on veillera à ce que ça soit le mieux possible avec ce nouveau contrat.
Bonjour Marie-Régine, enchantée. Thierry.
Bonjour Thierry.
Pour vous poser une question. Tisséo utilise des véhicules de transport, parfois vieillissants. Pourriez-vous mettre une révision plus rigoureuse de ces mêmes véhicules, hein, et les renouveler quand c'est éventuellement nécessaire?
Alors, je n'ai pas trop compris cette question, parce qu'effectivement, alors, on est sur les questions Mobibus, donc je suppose que c'est des véhicules Mobibus dont on voulait parler.
Oui.
Mais que ce soit Tisséo ou Mobibus, on renouvelle les véhicules autant que nécessaire. Un véhicule Mobibus, il est renouvelé tous les 5-6 ans, en fait. Effectivement, des fois, ils arrivent en bout, mais ils sont quand même renouvelés régulièrement. Et il faut savoir qu'en ce moment, on a des difficultés d'approvisionnement. C'est-à-dire que ça doit être pareil pour le particulier qui veut acheter une voiture, qu'on veut acheter un véhicule. On a eu des fois des livraisons qui sont arrivées 18 mois après la date prévue. Donc ça veut dire que pendant 18 mois, on devait renouveler, je ne sais pas, en janvier 2023. Il a fallu attendre 18 mois de plus pour pouvoir être livré du véhicule commandé.
Pourquoi les jeunes qui ne sont pas sur fauteuil ne sont pas inscrits à Mobibus?
Voilà, comme je le disais, Mobibus, c'est dédié aux personnes qui ont des problèmes locomoteurs et visuels. Ça ne veut pas dire que certaines personnes n'ont pas de difficultés avec le transport en commun, mais pour l'instant, c'est réservé aux personnes qui ont un déficit, un handicap moteur ou visuel.
Que proposez-vous pour les personnes en situation de handicap marchant qui ne sont pas capables de supporter la foule?
Pour l'instant, pas grand-chose. Je suis désolée. Peut-être que vous auriez des idées. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des soucis, mais c'est difficile
Les casques, peut-être.
Voilà, les personnes peuvent acheter leur casque anti-bruit, si c'est suffisant pour elles.
Des fois, c'est suffisant et des fois, non. Ça dépend.
Oui, déjà, pour se compléter la question précédente, est-ce que vous avez mis en place des abris sensoriels, notamment dans les grandes stations de métro, où il y a beaucoup d'influence, justement, pour que ces personnes puissent s'isoler un moment du bruit ambiant et souffler un peu?
Alors, il y a eu une expérimentation de fait en, je pense, 2019, à la station Marengo, avec une structure qui doit être dans ses locaux. Bon, je ne sais pas, il m'avait invité une fois dans les locaux ici. Comme ça, là, je ne sais pas vous dire son nom. Oui, voilà, Incluissance.
Ils sont dans le même bâtiment que nous, qu'on a déjà reçu dans ce podcast.
Voilà. Donc, c'est très intéressant ce qu'ils font. À l'époque, je n'étais pas sur la mission, mais j'étais allée découvrir cet abri sensoriel. Après, la difficulté... Donc on avait essayé pour la ligne C par exemple, on a des stations qui vont être assez petites, c'est où est-ce qu'on met cet abri et comment il s'intègre dans l'architecture, des problèmes de sécurité, etc. qu'on n'a pas...
Christian, encore une question, vas-y.
Oui, donc je voulais savoir, dans les clients de Mobibus, en plus de leur handicap, qu'ils soient visuels ou moteurs, certains clients ont d'autres pathologies, par exemple des difficultés pour communiquer, que ce soit des personnes qui ont des troubles d'élocution, des personnes sourdes aveugles, des personnes peut-être âgées ou qui ont eu un traumatisme crânien, qui vont avoir des troubles de la mémoire. Et donc je me demandais si les conducteurs sont également formés pour prendre en considération ces difficultés.
Les conducteurs de Mobibus et le personnel de Mobibus est formé à l'accueil des personnes en situation de handicap. Ça serait au directeur de Mobibus de vous répondre, hein, comment ils forment. Ils essaient de former au mieux. Et on avait organisé donc avec des associations de représentants de personnes en situation de handicap visuel, avec l'UNADEF et la VH, une journée de rencontre entre des conducteurs et les personnes malvoyantes pour que justement les conducteurs soient mieux sensibilisés, mieux formés à accompagner les personnes malvoyantes. Alors après, on pourrait aussi développer pour d'autres types de handicap. Il faut savoir aussi que pour appeler la centrale de réservation, on peut aussi, et comme pour appeler à l'OTCO, on peut utiliser le service Axéo, qui est un service de traduction en temps réel, soit en langue des signes, soit en français complété. Enfin, il y a plusieurs techniques pour faire le lien entre une personne qui a des problèmes d'élocution et le service de réservation.
Nous aimerions savoir s'il y avait des services ressemblant à Mobibus dans d'autres villes, par exemple Montauban ou Carcassonne.
Il faut savoir qu'un service tel que Mobibus n'est pas une obligation de la loi. Voilà, ça me semble quand même indispensable, même si ce n'est pas obligatoire, Tisséo l'a mis en place et ne l'enlèvera pas. Donc la plupart des grandes agglomérations comme Toulouse, c'est-à-dire Lyon, Rennes, Nantes, etc., ont un service comme Mobibus. Et j'ai regardé, suite à votre question, et j'ai trouvé qu'à Carcassonne et à Montauban, il y avait aussi un service tel que Mobibus. Mais par rapport à Mobibus, ils ne vont pas avoir autant d'amplitude horaire, par exemple. Ils vont avoir des amplitudes horaires plus restreintes ou un service plus restreint que Mobibus. Mais ça existe aussi.
On a l'habitude de terminer l'interview par une question que l'on pose à tous nos invités. Que retenez-vous de votre passage à Café & Co?
Eh bien, il y a beaucoup d'intérêt pour Tisséo, puisque vous êtes très nombreux, donc je suppose que vous êtes tous intéressés par les transports en commun. Et puis beaucoup de professionnalisme, je vous trouve très professionnel dans votre façon de poser les questions et d'animer cette interview, enfin, ce podcast.
Et que pensez-vous justement du lieu de Café & Co?
Alors, franchement, c'est très vivant, hein, quand on arrive, il y avait énormément de monde, on avait du mal à se frayer un chemin. C'est un lieu très vivant, très agréable et très accueillant.
Pourtant, vous êtes invité normalement. Hein.
Très accueillant, voilà.
Ouais. Oui, effectivement, et c'est vrai. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir plein de personnes et pouvoir faire des interviews avec elles. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, Marie-Régine Barrault, Je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes chargé de mission d'accessibilité chez TCO Collectivité. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de votre passage à Café & Co. Et nous retrouvons prochainement donc pour la prochaine interview.
Le podcast ici à Café & Co. Qui fait la différence.
Merci beaucoup.
Qui fait la différence.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci à vous.
Différence.
Radio & Co.